Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay.
Bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Ravi de vous retrouver comme chaque soir du lundi au jeudi de 21h à 23h en ce premier mardi du mois et de l'année 2025. Émission avec notre partenaire France Route. Et comme nous ne changeons pas une équipe qui gagne, bonsoir Nicolas Grumel.
Bonsoir Sébastien Ponchelet, alias Sebamax, alias le roi de la route.
Bonne année. Plein de bonnes choses, plein de santé,
bonne année à tous, bonne année à toute l'équipe de Radio Vinci Autoroute. Ouais,
et plein de beaux reportages aussi.
Ça va être sympa. On espère que la page de 2024 sera tournée.
On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Ce soir, des camions tout-terrain.
Plein d'espoir.
Des camions tout-terrain, un camion Ben qui a 70 ans et un point d'actu ENAO, négociation annuelle obligatoire. Les détails dans un instant, mais d'abord l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute et pour le sud-ouest du pays. Nous retrouvons à nouveau ce soir Marielle Nougaret. Bonsoir Marielle.
Bonsoir Sébastien, bonsoir Nicolas, bonsoir Quentin et tous les amis, ravis de vous retrouver sous la pluie ce soir.
Oui, sous la pluie, effectivement. Et pour la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen, c'est Quentin Lachaise. Bonsoir Quentin et bonne année.
Bonne année, oui, bonne année à tout le monde, à nos auditeurs et puis à toi Sébastien et puis à Nicolas aussi.
Et ben voilà, message à y passer. Allez, je vous retrouve tous les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 janvier 2025. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo. Et comme chaque soir, 2 heures en toute convivialité, quel que soit le sujet.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Dans quelques instants, nous allons évoquer avec Fabien Calvé de France Route une prise en main tout terrain avec un Mercedes Arkos et une Imog. Vous découvrirez ce qu'il se cache derrière ces noms. Des camions qui vont sur les chantiers, en carrière ou encore adéquates pour les terrains accidentés. Avez-vous déjà conduit ce type de tracteur tout terrain? Ça vous dirait ou pas? Tiens. Et puis en seconde partie, une très belle histoire, celle d'Hélène Wuschläger qui a conduit en Ben il y a 70 ans un portrait que nous dessinera Nicolas tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez du tout premier camion que vous avez conduit? Et entre ces deux sujets, nous ferons un point sur les difficiles négociations annuelles obligatoires sur les salaires dans la branche du TRM. En tout cas, pour participer à nos deux autres sujets, c'est évidemment à l'arrêt. Connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la nouvelle bulle bleue et vous pourrez nous écrire directement en studio. Notez que les messengers Facebook de la radio et de l'émission fonctionnent toujours.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Salut Fabien.
Salut, bonjour à tous et meilleurs vœux à tout le monde. Hein.
Ah oui.
C'est la saison. Hein.
C'est la saison qui veut ça. On a jusqu'au 31 janvier. Hein. On va se dire, voilà, donc on a le temps encore. Mais en tout cas, bonne année également Fabien, journaliste France Route, spécialiste du camion devant l'éternel. Dis-moi, est-ce qu'en 2025, déjà, tu as prévu de dormir?
Oui, bien sûr, de plus en plus d'ailleurs. C'est avec l'âge, tu sais, je commence à le faire. Non, mais bon, pour l'instant, début d'année, c'est assez calme. La semaine prochaine, gros déplacement en Norvège pour des essais que j'affectionne particulièrement, des gros 32 mètres de long, 70 tonnes sur la neige, dans les paysages norvégiens magnifiques. Donc, on devrait se régaler.
Tu me confirmes qu'il y a des endroits où on arrive à conduire avec de la neige?
Oui, voilà, ouais. C'est-à-dire, il y a des pays où il vaut mieux, parce que 36 mois de l'année, ils sont embêtés. Nous, en France, on fait du préventif. Avant qu'il neige, on bloque les camions. Donc, non, on est sûr. Mais bon, dans d'autres pays, ils travaillent quand même. Mais je ne ferai aucune polémique.
On va bien commencer l'année.
Tu l'as lancé sur un sujet glissant.
Là. Oui. Bon, allez, venons-en à cette prise en main tout-terrain. Tu t'es donc mis au volant de deux camions Mercedes pour le numéro de décembre-janvier, et plus précisément des Mercedes Arox et Unimog, j'espère que je prononce bien, avant de les évoquer un par un avec leurs spécificités. Pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière ces noms-là, Arox et Unimog? C'est quoi ces noms finalement, pour que tous nos auditeurs comprennent de quoi on parle?
Ben, dans la gamme Mercedes, il y a différents types de modèles, des modèles plus routiers, l'Actros qu'on connaît, c'est un nom très commun, et l'Arox, c'est le cousin de l'Actros, mais version chantier, TP, travaux difficiles. C'est une gamme qui est dédiée pour les camions renforcés, on va dire, parce que ça peut être un tracteur, par exemple, de convoi exceptionnel, c'est pas forcément que pour le off-road, mais en tout cas, ce sont des modèles qui sont un peu plus musclés que les autres et configurés de façon à pouvoir sortir des sentiers battus. Quoi. Là, on le voit. Alors, c'est vrai que cette opération qu'on a eu la chance de faire avec l'équipe Mercedes, puisque j'ai été intégré à leur programme avec tous les formateurs, etc., c'est tout simplement génial parce que tu peux réellement essayer tous les véhicules, toute la gamme, toutes les spécificités. Alors, on s'est concentré sur certains modèles dans le magazine, mais j'ai eu la chance d'en conduire plusieurs et de surtout tester les différents équipements dédiés de ce type de véhicule qui permettent de faire carrément des merveilles, ça c'est clair.
Ouais. Alors, je vais revenir un instant, parce que moi j'ai commencé un petit peu à dire les choses, j'ai parlé de les carrières, hein, on va chercher les pierres, j'ai parlé de zones accidentées, mais pour quel type concrètement de terrain, c'est multiple, ces terrains sur lesquels ils peuvent aller ces camions ?
Le plus commun, de ce qu'on a l'habitude de voir dans nos villes, villages, etc., ce sont les camions bennes. Hein. Alors, il peut y avoir des 6-4, des 8-4, ou bien d'autres configurations. C'est-à-dire, c'est des camions qui sont destinés à livrer du gravier, des cailloux, etc., mais qui sont capables de sortir du bitume. C'est-à-dire, OK, ils vont en carrière, c'est à peu près carrossable, mais par exemple, à l'arrivée sur le chantier, ça peut être boueux, terrain glissant, avec des ornières, etc., le camion va, de par sa garde au sol, de par tout un tas d'équipements, va être capable d'accéder à ces zones difficiles de façon à assurer sa mission de livraison. Idem pour les toupies à béton ou d'autres types bien spécifiques, les pompes à béton, etc. Tous ces équipements spéciaux, parce que quand on parle camion, il ne faut pas justement se limiter aux camions qu'on a l'habitude de voir, les grands routiers sur l'autoroute. Il y a un tas de matériel dédié et je dois dire qu'au catalogue Mercedes, c'est peut-être un des constructeurs qui propose le plus de choix sur ces types de produits et avec des équipements spécifiques. Vous le verrez dans la vidéo, enfin, d'ailleurs elle est publiée, je crois, on le voit dans la vidéo, il y a tout un tas d'aides à la conduite, par exemple un pont avant hydraulique qui, lorsqu'on est en galère, qu'on patine, etc., on vient enclencher le pont avant de façon à passer d'un véhicule deux roues motrices à un véhicule quatre roues motrices.
Ah d'accord, oui, tu m'as fait peur parce que j'ai cru que tu me disais qu'il y avait un pont qui se construisait tout seul avec les nouvelles technologies.
Non, le pont arrière du véhicule, et on le transforme en 4x4, voilà, il y a tout un tas d'éléments. Un autre système qu'on a eu la chance de tester vraiment dans ses extrêmes limites, c'est le TRC. Alors c'est tout ça, c'est des termes un peu barbares, mais c'est Turbo Retarder Clutch. En vérité, c'est un organe qu'on vient mettre entre le moteur et la boîte et qui fait sorte de super embrayage, et ça fait entre guillemets fusible, vous pouvez plus fumer votre embrayage et vous allez avoir des capacités de franchissement redoutables. On a ça aussi sur les gros convois exceptionnels, quand il faut soulever la charge, c'est-à-dire décoller, quand on est à l'arrêt et venir décoller 200 tonnes, le TRC, c'est un outil magique. On a ça sur les gros convois de Capel, les derniers Mercedes qu'on a vus un peu partout, là, justement, ces Arox, qui sont là aussi des Arox pour le convoi exceptionnel, ils sont équipés de ce système TRC qui permet une traction maximum. Et là, réellement, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font ça, mais Mercedes nous a donné carte blanche et on avait ces véhicules qu'on n'a pas testés pour faire semblant. On les a mis dans des situations où d'ailleurs je pense que 90% des utilisateurs ne les mettront jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantier aussi.
On a été dans un volcan.
Réellement, le site de Voleur Montagne, c'est un site de formation. Il y a notamment les pompiers, le DF, en fait, tous les gens qui font un peu des trucs extrêmes vont former leur personnel sur place. Et c'est vrai qu'on a accès à des zones de franchissement qui sont magiques. Regardez la vidéo, il y a des images, vous êtes avec un gros 8-4 et vous plongez dans une marche et ça passe, et c'est ça qui est phénoménal. D'ailleurs, au Dakar, il pourrait s'en inspirer parce qu'il se plante à moins que ça, je vois, sur les images à la télé. Donc il devrait peut-être s'inspirer de prendre des Mercedes. Mais en tout cas, il y a vraiment... On y est allé franco et comme d'habitude, ben, vous connaissez que je prends toujours les trucs avec des pincettes, j'ai fourni le truc et puis on est transparent et on a réellement montré les coulisses et l'évolution de ces camions et c'est bluffant.
Et ben on va continuer d'en parler dans un instant, reste bien avec nous Fabien, nous allons te retrouver dans quelques minutes. Et vous, le camion tout terrain, est-ce que vous en êtes? Vous en avez déjà fait, vous aimeriez, radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue et les messengers Facebook de l'émission restent eux aussi évidemment actifs. Allez, si on passe à l'infotrafic et on revient sur ces camions tout-terrain dans quelques minutes. Et Nicolas qui nous a écrit, non c'est pas Nicolas Grumel, non il nous écrit pas, il est juste là quand même. Bonsoir, je voudrais passer le bonjour à mes collègues des transports Anta de Béziers, merci et bonne soirée, signé Nicolas. Merci Nicolas pour le message et n'hésite pas à réagir à nos deux thématiques de ce soir, dont le second sujet est en lien tout à l'heure avec notre sondage. Est-ce que vous aimeriez conduire à nouveau votre tout premier camion? Pour voter, c'est aussi à l'arrêt sur la page Facebook, les routiers sont toujours aussi sympa, ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange, votez et venez nous en dire plus via la bulle bleue. D'ailleurs, tiens, est-ce que vous vous souvenez du tout premier camion que vous avez conduit, sa marque, son type? On en parlera tout à l'heure. Nous retrouvons dans un instant Fabien et Nicolas pour continuer à parler de CTT. Oui, c'est du VTT, mais en camion. Voici Kavinsky, Angel et Phoenix, Night Call. Night Call, Kavinsky, Angel et Phoenix, hein, sur cette reprise évidemment de Kavinsky. Je crois savoir que t'aimes bien ce titre, Fabien, il me semble, non? Tu m'avais pas dit ça? Je m'en souviens parce que tu me l'avais dit lors de l'émission en direct des 24 heures camion Le Mans de l'année dernière.
Oui, c'est vrai, t'as bien la mémoire. C'est ouais.
T'as vu? Je m'en suis bien souvenu. C'est
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Et nous continuons.
Il note tout, Sébastien. Moi, je l'ai déjà vu. Il note tout.
Non, je note pas. C'est ma tête, c'est mon cerveau qui note tout. J'ai un disque. J'essaie de tout retenir. C'est pas toujours évident, mais on essaye. Allez, on reparle du VTT, mais en camion. Ça a beaucoup fait rire Nicolas tout à l'heure.
En camion. Quand tu transporteras 44 tonnes de gravats sur un VTT.
Je dois vous avouer quelque chose, je suis beaucoup moins fort en VTT.
Alors, au début de ton article, on comprend, enfin c'est ce que tu nous expliques, que Mercedes est quand même à la pointe du domaine de ces types de camions en fait, hein, c'est ce que tu nous dis.
Déjà, c'est vrai que Mercedes a un historique dans le TP, tout comme MAN, il y a des constructeurs qui sont plus ancrés que d'autres dans la discipline. Mercedes est de loin un des leaders incontestés sur le marché du véhicule spécifique comme ça. Et là, aujourd'hui, avec tous ces organes, ces options qui viennent sur les camions, hein, j'ai parlé du TRC, du HAD, des sillons hydrauliques, etc., etc., c'est vrai qu'ils proposent réellement du haut de gamme pour ce type d'exploitation, et on le voit à l'utilisation, ils le rendent en plus très facile, très accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un champion du monde du off-road pour se sortir de mauvais espaces avec ces camions. Alors si beaucoup de personnes décrient, ou en tout cas crachent sur l'électronique, etc., etc., il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, il y a des modes d'exploitation, des vitesses avec des modes off-road, etc. Ça vous aide quand même énormément, notamment quand vous êtes planté, il y a des mode pour se sortir, et c'est vrai que sur cette question-là, Mercedes est quand même une marque de référence sur ses produits dits un peu robustes. Mmh. Voilà.
Il y a d'autres marques quand même qui tirent leur épingle du jeu dans ce sujet.
Mais c'est très germanique. MAN aussi, ça sort très bien. Il y a Scania aussi qui fait des produits dédiés avec sa gamme XT, Volvo avec les FMX. Il y a quand même tout un tas de c'est-à-dire que dans le catalogue du constructeur, il y a des gammes spécifiques, et c'est ce que je dis souvent à pas la totalité, mais à la plupart de mes essais. Il est super important lors de ce que vous achetez un camion, ou en tout cas que vous commandez un camion, de le configurer par rapport au travail que le véhicule va faire. Parce que, ben, par exemple, l'achat des, c'est-à-dire cet essieu qui temporairement peut devenir moteur à l'avant pour vous sortir, il y a plein d'utilisations où on n'aura pas forcément besoin d'un 4x4 permanent, parce que 80-90% du temps, le deux roues motrices va suffire sur un accès chantier, donc pas la peine d'acheter un 4 roues motrices qui va moins braquer, qui va faire plus consommer. Avec l'utilisation de ces produits spécifiques, comme cet essieu hydraulique temporaire, ben ça va vous sortir des 10% où vous serez en galère. Donc il faut vraiment étudier, et c'est là aussi où le vendeur de camion a une importance cruciale dans la définition du camion. Savoir proposer au client le matériel qui correspond le mieux à l'utilisation. Et ça, je pense que quand même, chez beaucoup, c'est une carence, enfin, ça manque, alors qu'une bonne étude du véhicule et une bonne configuration va résoudre beaucoup de problèmes après. Et c'est vrai que nous, là, sur ces journées à Rox, on a réellement pu faire le tour du catalogue et essayer tous les modèles, et on s'aperçoit que ben, c'est tout simplement bluffant, parce que même moi, qui ai quand même un peu l'habitude, il y a des fois où tu te dis, ben là, non, on va pas le faire. Ben, ça passe et ça monte. Parce que même, je dirais, on peut pas s'imaginer qu'un camion de série, puisque ce n'était pas des camions prototypes, c'est réellement un camion qui sort de la chaîne, ben ils arrivent à franchir des obstacles comme ça, ou des passages aussi impressionnants, sans en arriver à l'Unimog, puisque c'est un peu la cerise sur le gâteau de cet essai, où là on est dans un camion que je qualifierais de magique.
Nicolas, tu voulais réagir?
Oui, moi j'ai aussi, j'ai lu l'article, hein, bien évidemment.
Bah heureusement.
J'ai même relu, j'ai corrigé les petites fautes d'orthographe.
Oh là là, comment il est.
Non, mais j'ai aussi regardé la vidéo, c'est là où je voulais en venir, par les routes détournées. Et donc la vidéo qui est disponible depuis hier sur la page YouTube France Route Officielle, l'excellente vidéo tournée par Nadège et Fabien Calvé, enfin... Nadège pas encore Calvé, d'après ce que j'ai compris.
Vas-y, enchaîne.
Bon, enfin bref, et donc dans la vidéo, on te voit, Fabien, qui avance, et puis à un moment, t'enclenches le truc dont t'as parlé tout à l'heure, là, et tu recules. Et toujours en appuyant sur la pédale de frein. Alors ça, j'aimerais bien regarder la vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de France Route Officielle, parce que c'est quand même assez sympa. Alors évidemment, tous les pratiquants du camion ben et du tout terrain en véhicule utilitaire connaissent le TRC et les autres, mais quand même c'est sympa.
Tu viens quand même de dire que en appuyant sur la pédale de frein, il recule.
Non, d'accélérateur.
Non, t'as dit de frein.
Oui, je me suis trompé. C'est l'accélérateur. Pardon, c'est l'accélérateur. Je fais toujours comme ça, mais même quand je suis dans ma bagnole, j'appuie sur le frein alors que je devrais appuyer sur l'accélérateur.
Oula, t'es sûr? Oula, il faut.
Non, je plaisante.
Pour rebondir sur ce que dit Nicolas, il y a plein de cas où on a pu le mettre en pratique, et c'est vrai que la vidéo est pas mal, parce qu'elle montre vraiment la réalité où on voit les roues patiner. Et on voit qu'on met la marche arrière, mais malgré tout, ben, le camion continue de descendre en marche avant, parce que justement, ben, l'essieu moteur n'adhère pas, et le poids, l'inertie, ça c'est de la physique, ça vous tire vers le bas, et là on voit qu'on est en situation difficile, et que si on n'intervient pas sur quelque chose, eh bien on peut mettre le camion en luge et le plier, hein, tout simplement, et le simple fait d'appuyer sur ce petit bouton et d'enclencher cet essieu hydraulique à l'avant vient vous donner de la motricité sur l'essieu avant, qui vient se compenser avec l'essieu arrière, et d'un coup d'un seul, le camion remonte. Et voilà. Ça vous sort de la mauvaise base. Mmh. Et en image, c'est assez impressionnant, parce qu'en essieu, on voit quand même ce 40 tonnes partir en luge, et ça passe super bien. Il y a d'autres passages qui sont assez impressionnants en vidéo, où on voit, on descend avec un gros 8-4, alors conventionnel, 32-46, c'est-à-dire 32 tonnes PTAC, 460 chevaux, le véhicule que vous pouvez croiser tous les jours sur vos routes. Mmh. Et on voit descendre ces marches qui sont quand même des vraies marches. Je veux dire, c'est mmh. pas des trottoirs. Mmh. Quoi. Je veux dire, tu descends réellement et on voit les essieux qui se bloquent, qui se tordent, les croisements de pont. Et pour celui dont je fais partie, qui aiment la mécanique, comprendre comment ça fonctionne, de voir ces capacités de torsion de ces châssis, l'essuie avant qui a l'impression qu'il se déboîte, et ça passe sans la moindre casse, sans le moindre bruit, c'est tout en douceur. Moi, je trouve ça magique. Alors voilà, je vais peut-être dire assez simple.
Mais... en tout cas, tu le traduis très bien dans la vidéo, dans tes propos dans la vidéo, et c'est vraiment... c'est intéressant, quoi.
Je dis dans la vidéo, alors c'est vrai que bon, après 35 ans de métier, on arrive à faire plusieurs choses à la fois, parler, essayer, mais c'est quand même plus facile quand on parle et on conduit sur l'autoroute que dans la situation où on était dans la box tour. C'est des moments où c'est un équilibre, et on le voit d'ailleurs un peu à ma tête, je m'arrête un peu de parler, parce que bon, t'es quand même en balance avec un bordel de 32 tonnes en équilibre sur une marche, et en même temps, arriver à faire... à passer, disons, le message aux futures personnes qui vont regarder la vidéo. C'est pas toujours évident. J'avoue que sur le coup, c'était assez marrant, mais bon, plaisant à faire, quoi qu'il en soit.
Et ben, on te retrouve dans un instant, roulé en terrain dit accidenté. Est-ce que vous avez déjà fait construction ou autre carrière, par exemple, hein, et pas que. Envoyez vos messages et témoignages quand vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr. Cliquez sur la toute nouvelle bulle bleue pour nous écrire directement en studio, mais notez que les messengers Facebook de la radio et de l'émission sont toujours actifs. Nous retrouvons Fabien et Nicolas après l'infotrafic. Nous sommes toujours avec Nicolas Grumel et Fabien Calvé de France Route pour parler de ces camions tout-terrain qui sont quand même très très impressionnants. Moi j'ai deux questions un petit peu, c'est celui qui se pose des questions parce qu'il est un peu novice en la matière, Fabien. On sait déjà qu'un passage de vitesse c'est complètement différent sur un camion classique, mais un passage de vitesse en camion tout-terrain sur des zones accidentées, ça se passe comment, même si c'est des boîtes automatiques, j'imagine?
Alors, c'est des boîtes robotisées, pas automatiques, d'accord. C'est un peu différent. Mais surtout, la priorité quand on fait ce genre d'évolution, c'est justement de mettre la boîte en mode manuel. C'est-à-dire que bon, il n'y a pas la pédale d'embrayage, hein, vous n'avez pas besoin de pousser votre pédale d'embrayage pour changer les rapports, mais le B.A.B.A. en tout terrain, c'est déjà de passer en manuel. Il faut que ce soit le conducteur qui dirige, de couper les antipatinages ASR, ABS, etc., parce que on va obligatoirement à un moment décrocher, c'est-à-dire qu'on va perdre l'adhérence sur les roues, et en temps normal, si par exemple on a un antipatinage, si on vient à commencer à patiner, ça coupe la puissance au moteur pour éviter de se mettre en travers. Là, on ne peut pas couper la puissance au moteur parce qu'on va avoir besoin de faire patiner les roues pour peut-être reprendre l'adhérence à un moment. Donc le mode de conduite off-road, c'est réellement un mode de conduite différent de ce que l'on connaît. C'est une véritable formation. Enfin, il faut quand même être un peu aguerri à la chose. Et c'est vrai que concernant le passage à vitesse, le fait de mettre en mode manuel, on va par exemple choisir de faire une ascension, de gravir un obstacle en troisième, et on va le garder en troisième, quitte à monter un peu plus haut dans les tours que ce qu'on le fait sur la route, mais de façon à ne pas provoquer une rupture à un certain moment si le camion venait à changer de vitesse, parce que là, ça couperait l'élan et on redescendrait dans l'autre sens. Ça pourrait être carrément dangereux. Donc, premier réflexe, quand on est sur des modes un peu comme ça, accidentés, ou en tout cas des modes de conduite difficiles, on se met en manuel et on sélectionne le rapport le mieux adapté au franchissement de l'obstacle. Voilà, ça, c'est les règles de base du off-road.
Alors, une question un petit peu plus globale. Quand une marque, comme l'a fait la Mercedes, se lance dans la démonstration d'un nouveau camion, d'un nouveau tracteur devant des dizaines et des dizaines de professionnels, ça reste finalement un sacré risque parce que ça passe ou ça casse, quoi.
Oui, tout à fait. Et alors, je veux dire justement, et c'est pour ça que, d'abord, je remercie Mercedes de nous avoir conviés, nous, journalistes, parce que là, ça montre encore plus la transparence, et qu'ils n'ont pas peur, parce que tu convies tes clients, bon, déjà, tu peux perdre des ventes, mais si jamais tu convies les journalistes et que ça merde, ça peut vite avoir des conséquences.
Oui,
donc, je les remercie déjà de nous faire confiance. Mais Mercedes joue carte sur table. Ils invitent leurs clients dans des situations comme ça, où c'est deux jours complets d'essais. Alors là, en plus, c'était plutôt sympa parce qu'on a bivouaqué, on a dormi dans des tentes, on a vraiment vécu l'expérience terrain. En plus, c'était au mois de juillet, sous la pluie, dans le Puy-de-Dôme. Enfin, bon, c'était pas réellement glamour cette année parce qu'il n'y avait pas les conditions tranquilles. Disons où on aurait pu avoir la météo avec nous. Mais d'un autre côté, je le dis dans la vidéo, c'était plutôt sympa pour nous parce qu'on a pris des gros orages, etc. Et ça a rendu le terrain encore plus difficile. Donc, la démonstration encore plus risquée. Mais je dirais que je pense que les constructeurs, quand ils organisent des actions comme ça, c'est qu'ils sont déjà sûrs de leurs produits. Ils ne font pas un truc au hasard. Ils mettent leurs... Alors, chez Mercedes, ça s'appelle les moniteurs experts. Il y a toute une équipe en France de professionnels qui sont là pour apprendre à leurs clients à se servir au mieux du véhicule ou en tout cas les conseiller sur le mode d'utilisation. Et dans ce genre d'action, là, puisque ça a duré plusieurs semaines, ils invitent des centaines de clients à venir essayer les produits en conditions réelles et toutes les équipes des moniteurs experts sont là pour accompagner et guider, aider, former leurs clients ou leurs futurs clients. Et je dirais que peu de constructeurs font des actions de cette envergure, mais bon, rappelons que quand même Mercedes est numéro 1 mondial dans le poids lourd, donc c'est quand même quelque chose. Et nous, on a eu la chance d'être au cœur de cette aventure. Mais attention, la semaine prochaine, par exemple, on va avec Scania en Norvège et on va avoir là aussi la chance de faire des choses exceptionnelles sur la neige, dans des conditions réelles. Donc les constructeurs jouent quand même énormément le jeu parce qu'ils sont sûrs de leurs produits, quoi, tout simplement.
Alors, il y a Olivier 18 qui réagit, nous dit « Salut Sebamax, Nicolas et l'équipe de Choc. Moi, j'ai fait de la Ben TP en 6-4, c'était un Volvo. » Et puis, il nous parle un petit peu du deuxième sujet. Je vous en parle maintenant de ce message parce qu'il est intéressant. Tous les messages sont intéressants, mais par rapport à ce qu'on se raconte, mon tout premier camion était un 12 tonnes. À l'époque, on pouvait rouler à 110 km/h sur l'autoroute en messagerie. Et oui, je suis un vieux kangourou de la route. Je veux dire un vieux loup. Un coucou au Fada, hashtag respectons les routiers, hashtag respectons les hommes et femmes en jaune, hashtag une heure de plus, signé Olivier 18 de la BNTP en 6-4. Là, il nous parlait d'un camion où on pouvait aller, où on avait le droit d'être à 110 sur autoroute. Je pense qu'un camion tout terrain, là, on fait pas du 110 km/h, sauf si on fait du Paris-Dakar.
Non, on est dans des zones de franchissement à faible vitesse. Alors, l'époque des 12 tonnes 110, c'était typiquement français et uniquement français, puisqu'on avait des grands volumes. Ce monsieur doit être expressiste et il doit faire des lignes. Ça doit être un lignard de nuit. On avait les Renault, les MAN, les petits MAN M2000, etc., qui étaient des véhicules grand volume, avec des énormes caisses, détarrées à 12 tonnes, justement pour pouvoir rouler à 110 km/h. Et c'est vrai que tout le principe du colis à l'époque et de l'express de nuit était basé sur ces camions 12 tonnes, puisque évidemment ils avaient un rendement bien plus élevé que les semis ou les camions remorques. Tout ça a changé avec le passage 90, où là on a migré sur des caisses mobiles, des camions remorques en caisses mobiles. Ça a changé la vision du transport express, mais c'est une époque, il fait bien de le souligner, parce que on doit avoir à peu près le même âge, parce que moi aussi, je me rappelle des deux.
Bon, allez, on te garde un dernier quart d'heure avec nous, puis après, on te laissera te reposer. On va se retrouver juste après le point trafic. On a d'autres témoignages qui me sont parvenus, notamment Régis, qui nous parle de chargement dans des carrières en benne céréalière. On se parle de tout ça juste après le point trafic, évidemment. Toujours en compagnie de Fabien Calvé, de M. Nicolas Grumel, de France Route, pour continuer de parler en ce premier sujet 2025 avec notre partenaire. Nous parlons de ces camions tout-terrain. Alors juste déjà Arnaud qui nous dit, salut Sebamax, Nicolas et toute l'équipe du 177, il nous dit, pour ma part, moi le TP, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour le second sujet, on verra tout à l'heure. Et Régis qui réagit également, salut Sébastien et la géniale équipe du 177. En rapport du sujet de ce soir, il nous arrive souvent de charger dans des carrières avec nos bennes céréalières. Il y a des moments, on rigole pas trop, il nous dit. Hein. Surtout quand les chargeurs sont obligés de nous tirer. On est obligé de mettre nos chapes de remorquage pour être enlevés des endroits difficiles. Un exemple, on charge souvent dans les cratères des Puy-de-Dôme. Attendez, alors je parlais de volcan quand même, hein, donc du coup, voilà. De la Pouzzolane. La montée est assez impressionnante et compliquée. Bon courage à tout le monde. Bonne route, les nuiteux, et la prudence à nos anges gardiens. C'est ce que tu nous disais un petit peu, Fabien, quand on parlait des vitesses, il faut déjà être un petit peu aguerri pour la conduite, mais c'est vraiment, quand on parle de terrain accidenté, j'ai parlé de volcan, j'étais pas si loin de la vérité, vu qu'il nous parle du Puy de Dôme, Fabien.
Oui, et puis il parle de benne céréalière, alors je ne sais pas si c'est un semi ou un porteur, bon, vraisemblablement ça doit être un semi, et du coup ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément des véhicules très adaptés à ce type de boulot, évidemment qu'on peut charger un pouzzolane, du gravier ou quoi dans des bennes céréalières, juste on en met par rapport au tonnage et pas par rapport au volume, donc ça fonctionne aussi, mais on voit que c'est plus un camion approche chantier, voire routier, et donc eh bien, ils ont plus tendance à devoir se faire tirer pour sortir des zones difficiles, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il semble-t-il, ce sont des camions configuration routière, donc qui ont un peu plus de mal dès qu'on sort un peu des sentiers battus, et dans le cas présent, on aurait eu un Benz avec ce fameux essieu HAD, ben, je suis sûr que la chargeuse n'aurait pas eu besoin de remorquer, puisqu'on aurait mis en fonction cet essieu avant moteur qui aurait sorti le véhicule. Voilà, c'est vraiment, chaque produit a une utilisation, alors évidemment, il y a de la flexibilité, mais si on est dédié à faire du TP toute l'année, mieux vaut avoir un vrai camion de TP entre les mains, quoi.
Juste avant qu'on poursuive et que je donne la main à notre ami Nicolas, Marielle, nouvel événement.
Oui, et nous allons du côté de Cahors sur l'autoroute A20, dans le sens Brive vers Montauban et Toulouse, puisque 2 km après Cahors Nord, c'est la sortie numéro 57, il y a un obstacle sur les voies de circulation aux alentours du kilomètre 353, donc peut-être une manche à air sur les voies, je ne sais pas trop, en tout cas faites très attention.
Et sur les autoroutes de l'Ouest et du Centre, un nouvel événement également avec un accident qui vient de nous être signalé sur l'autoroute A11, l'axe entre Paris et Nantes, en direction d'Angers, de Nantes ou de La Roche-sur-Yon, qui est la 211, on est après la sortie 9 Le Mans Sud. Il y aurait au moins un véhicule accidenté près des voies. Nicolas, tu voulais réagir.
Qu'est-ce que c'est que la pouzzolane? Non mais franchement...
Je vais laisser Fabien répondre.
C'est des déchets de différentes matières, mais bon, c'est pas trop le sujet.
C'est une roche volcanique.
Je sais, qui sert dans certaines applications, dans certaines mixtures industrielles où on met de la pouzzolane et pas autre chose. Mais
surtout dans le ciment, quoi.
Voilà, juste.
Non, mais je dis ça parce que ça avait un lien quand même avec le camion, puisque il parlait de benne céréalière. Et en fait,
mettre de la pouzzolane.
Voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait.
J'ai des potes qui sont d'ailleurs des habitués des courses de camions et qui viennent exposer avec leur camion décoré, qui transportent parfois justement de la pouzzolane dans des céréalières. Mais c'est vrai que ce n'est pas la destination première. C'est pour ça que je disais qu'il est toujours préférable d'avoir un véhicule adapté au TP, puisque un véhicule de céréalière, ce n'est pas un véhicule de TP. Mais qui peut, en effet, comme c'est une vanne, transporter tout type de vrac dans la pouzzolane. Juste, si vous permettez, pour terminer, parce que je sais que mon temps va être compté, là, vous allez passer au sujet suivant, parce que je connais un peu l'émission.
Un peu.
On va parler d'une vieille dame, alors le vieux monsieur, il s'en va.
Pour juste terminer sur ce sujet Mercedes, et cette vidéo qui est assez, en tout cas sur laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, il y a ce fameux Unimog, alors avec ce nom un peu barbare, alors les spécialistes évidemment connaîtront l'Unimog, c'est l'engin de référence, la référence absolue en matière de tout-terrain, et là on n'est plus dans le TP, on est dans le franchissement pur, alors évidemment c'est ce que le camion qu'utilise, ben les pompiers, le DF pour les franchissements, et les chasse-neige aussi, il y a énormément de camions de voirie qui sont en Unimog, c'est un camion, enfin un véhicule qui permet réellement là de faire des choses extraordinaires en camion, et je dois dire, vous verrez la vidéo, je me suis pas mal régalé parce que là non plus on l'a pas ménagé le petit Unimog et on lui a fait faire des choses assez extraordinaires et je dois dire que c'était un vrai kiff de pouvoir m'amuser comme ça. J'en ai un Unimog perso, mais j'ai jamais osé faire ce que j'ai fait avec celui de
mais on partagera aussi évidemment la vidéo sur la page Facebook de l'émission en très peu de temps parce que je ne pouvais pas ne pas te poser la question, Fabien, en lien avec notre sujet de tout à l'heure. Deux questions en une. Est-ce que tu te souviens du tout premier camion que tu as conduit dans ta carrière, le tout premier, est-ce que tu aimerais reconduire avec ?
Alors, la réponse est oui. et j'ai la chance de l'avoir, fait de les avoir, parce que j'ai une petite collection personnelle de camions qui représentent ma jeunesse, mon enfance, etc. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition, et je remercie encore Thierry et son papa, des gens que j'ai rencontrés complètement par hasard. J'ai fait l'acquisition d'un Berlier GLR 160 qui est maintenant dans mon garage, dans mon petit musée, et ça fait partie des premiers camions avec lesquels j'ai fait mes premiers tours de roue. J'ai mon 142 que j'ai eu l'occasion de retaper, le premier, celui avec lequel j'ai commencé, Scania 142, qui est un camion mythique qui a été refait de A à Z pendant le Covid. S'il y en a, ils se sont emmerdés pendant le Covid, moi je me suis bien, amusé, parce qu'il y a 300 heures de carrosserie, j'ai refait un 142 à neuf. J'ai également mon premier MAN UXT, c'est un modèle très spécifique qui est au garage chez Théo. Le seul regret que j'aimerais un jour retrouver, c'est mon TurboStar. J'avais mon Iveco TurboStar que j'avais vendu. C'était un de mes tout premiers camions et je regrette. Dans ces périodes, on les vend, on s'en sépare parce qu'on évolue et on n'y pense pas forcément. Mais quelques années plus tard, on regrette. Voilà. Donc maintenant, si je pouvais me trouver un petit TurboStar encore en état, ce qui est quand même assez difficile, ça me ferait bien plaisir.
Voilà. Eh ben, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, Fabien. T'embrasseras Nadège pour nous, évidemment. Et puis, on se dit à très bientôt.
À très vite, à très bientôt. Bonne route à ceux qui roulent. Ciao, ciao.
Merci beaucoup, Fabien. C'est la seconde partie de votre émission avec notre partenaire historique, France Route.
Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir.
Et nous allons raconter dans quelques minutes l'histoire d'Hélène Wulschläger. Dans une Allemagne post-Seconde Guerre mondiale, elle devra s'imposer dans un milieu d'hommes fin des années 1950 et conduira des camions Ben, dont un de la marque Sorer. Alors là, je ne sais pas du tout si je la prononce correctement, cette marque de camion. Nicolas pourra me le dire. Est-ce que cette marque, ça vous parle? Et rien que les photos de cet article vous donnent eh bien, des frissons et des émotions. Nous en parlerons avec toi, Nicolas, et nos auditeurs, bien sûr. Tiens, vous souvenez-vous du tout premier camion que vous avez conduit? Pour participer, c'est évidemment à l'arrêt. Connectez-vous sur radio177.fr, cliquez sur la nouvelle bulle bleue et vous pourrez nous écrire directement en studio. Notez que les messengers Facebook de la radio et de l'émission fonctionnent toujours et encore. Et puis, est-ce que vous aimeriez conduire à nouveau votre tout premier camion, pour voter, c'est aussi sur la page Facebook Les Routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur notre site internet radio177.fr, il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus, donc via la bulle bleue. Et notre premier sujet est toujours en cours aussi. Avez-vous déjà conduit des camions tout-terrain dans des zones accidentées et autres carrières? Mais avant tout cela, un peu d'actualité.
Les routiers sont toujours aussi sympas avec le magazine France Route, le mensuel des passionnés du camion.
Les négociations annuelles obligatoires, les NAO sur les salaires dans le TRM transport routier de marchandises n'ont toujours pas abouti. Les rencontres se sont multipliées ces dernières semaines. Alors qu'est-ce qui coince? Nous allons en parler ce soir avec Patrice Clos, secrétaire général de FO Transport. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour nous faire un petit point. Entrons directement dans le sujet, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui coince concrètement avec ces NAO?
Aujourd'hui, on a un secteur du transport qui est un peu en berne depuis le dernier semestre 2024. Et l'activité ne repart pas. Donc voilà, on a des transporteurs qui sont inclins à ne pas vouloir augmenter les salaires parce que les résultats ne sont pas là, les chiffres d'affaires ne sont pas là, voilà.
Alors, le SMIC était en 2024 à 11,65 euros de l'heure. Pour le premier échelon à l'embauche en tant que conducteur routier, j'ai pris la base minimale, nous en sommes en 2024 à 12,09 euros de l'heure. Qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce qui a été mis sur la table?
Aujourd'hui, la part des transporteurs, il a été mis sur la table rien du tout, puisqu'ils n'ont pas de mandat. Donc au moins c'est simple. Nous on demande au minimum à être au-dessus du SMIC et notamment sur le premier coefficient comme on avait obtenu en 2003 puisque je rappelle qu'on n'a pas eu d'augmentation salariale depuis le 1er décembre 2003 Et depuis, il n'y a rien eu. Et qu'à un moment donné, les salariés du transport, il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Si on veut rendre nos métiers attractifs, ça fait partie de l'attractivité du métier, les salaires. Hein.
Parce que du coup, vous n'arrivez pas à entendre cette réponse de dire bah, le transport a baissé en activité depuis 6 mois. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre ?
C'est pas qu'on n'arrive pas à entendre, mais les salariés, il faut qu'ils vivent aussi. Bien sûr. Donc à un moment donné, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a un problème qui est plus large au niveau européen et qui n'est pas français. Si je vous prends un exemple, on a appris en fin d'année que la Lettonie et la Lituanie avaient plus de licences de transport que d'habitants. Si ça ne pose pas un problème au niveau du transport routier européen, qu'est-ce qui pose un problème ? C'est, l'Europe, ce n'est pas ça, quoi. Et automatiquement, on trouvera toujours moins cher que moins cher ailleurs. Si on veut des esclaves de la route, c'est sûr qu'il faut aller chercher dans les pays de l'Est, voire au-delà, puisque maintenant, on arrive à recruter des salariés en Inde et en Asie, quoi.
Donc, c'est toujours le même problème, c'est ce fameux marché européen. On sait que ça crée des tensions au sein même des pays de l'Union européenne, mais nous pourrions penser finalement un schéma d'un serpent qui se mord la queue, parce que on a une baisse d'activité et pourtant on a toujours une pénurie de conducteurs routiers en France et en Europe, même si elle est un peu moindre que ces dernières années face à la baisse d'activité, elle existe toujours. Selon vous, selon FO Transport, selon Patrice Clos, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, il faut rendre nos métiers attractifs. Il nous manque 550 000 conducteurs routiers en Europe et un peu plus de 100 000 en France. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf que on n'attire pas les abeilles avec n'importe quoi. Donc si on veut que des gens viennent dans nos métiers, je le sais, j'ai été conducteur routier pendant 24 ans, c'est un super boulot, mais aujourd'hui, ce boulot, il ne paye plus. Donc il faut faire en sorte que ce métier paye pour les transporteurs, mais ça veut dire paye aussi pour les salariés qui sont là. Et aujourd'hui, par exemple, les temps d'attente, les chargements et déchargements ne sont pas rémunérés.
On sait que c'est un très très gros sujet hein, pour les conductrices et conducteurs routiers.
Quel est l'outil aujourd'hui industriel qui n'est pas payé quand il attend 5, 6, 7 heures ? Il n'y en a aucun, à part le camion, à part le transport routier. Donc à un moment donné, il faut faire en sorte qu'on change la donne et que les industriels, au lieu d'aller chercher le moins cher du moins cher et les industriels et les grands transporteurs, parce que les grands transporteurs mondiaux européens, ils sont aussi la cause de ce que nous vivons, nous, en France, avec une rétrogradation du pavillon français. Hein.
Quels sont les prochains rendez-vous, là ?
Le prochain rendez-vous, c'est jeudi.
Vous espérez quoi de cette nouvelle réunion ?
Mais au moins qu'on aura au moins des propositions de la partie patronale, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le SMIC il a augmenté de 2% au 1er novembre 2024, les retraites augmentent de 2,2% au 1er janvier 2025.
Donc au minimum pas. Pour vous, qu'est-ce qui doit pouvoir être proposé selon vous ? C'est quoi le minimum ?
Ben, nous, on demande 3,5 parce qu'on veut toujours rester au-dessus du SMIC et que le SMIC ne nous rattrape pas. C'est notre but sur le premier coefficient à l'embauche, évidemment. On parle de coefficient à l'embauche. Mais comme vous avez un 150 aujourd'hui qui est un professionnel de la route qui est payé à peine à 12,43 € de l'heure, excusez-moi, mais une femme de ménage, sans dénigrer la femme de ménage, elle gagne plus qu'un conducteur routier professionnel. Donc ça pose un problème de fond.
Nicolas, tu voulais réagir.
Oui, bonsoir Patrice. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous pouvez actionner, comme par exemple un 13e mois ? Est-ce que
Le 13e mois fait partie des revendications depuis longtemps. On est pratiquement une des seules conventions collectives à ne pas proposer le 13e mois à ses salariés. Quoi. Même le transport routier voyageur le propose. Et à routier marchandise, on ne l'a pas.
Et le CFA, le congé de fin d'activité, c'est quelque chose d'attractif pour les conducteurs ?
Ben, un conducteur jeune, non, c'est pas attractif pour lui parce que ça lui parle pas, le CFA. Mais un conducteur qui commence à avoir 50 ans, oui, ça commence à lui parler là, quand je fais l'activité.
Comme on sait que la moyenne d'âge des conducteurs routiers, je crois que c'est 44 ans, hein, de mémoire.
Elle a même augmenté un peu.
Ouais, un peu, ouais.
Est-ce que Patrice, vous vous souvenez du tout premier camion que vous avez conduit ?
Oui, c'était un Renault en porteur. Petit Renault en porteur. Ouais.
Est-ce que ça vous dirait aujourd'hui de le reconduire à nouveau ?
J'arrive en fin de carrière, c'est compliqué. Me retrouver derrière un volant, c'est compliqué.
Bon, en tout cas, merci Patrice Clot d'avoir été avec nous.
Et bon courage pour jeudi.
Et oui, bon courage pour jeudi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général FO Transport. À bientôt, Patrice.
À bientôt.
Très belle soirée. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à l'info trafic et puis une belle histoire est à venir dans votre émission dans un instant. Allez Nicolas, nous allons aller à la rencontre d'une femme assez extraordinaire dont le portrait complet est à lire dans le numéro de décembre-janvier.
Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille. Comme les autres.
Et là, j'ai perdu tout le monde.
Là,
j'ai
en plein délire.
Là, je crois.
Oh, la référence.
J'ai hésité entre Rock Voisine et Hélène Rollès et j'ai trouvé que c'était plus drôle Hélène Rollès quand même.
Hélène et les camions.
Jamais dû la lui faire.
Comment?
On n'a jamais dû la lui faire. Au moins une fois.
Bah non, pas Hélène Wulfschläger, parce que ça m'étonnerait, parce qu'en plus, elle était allemande et puis quelques années maintenant, dont le portrait complet est à lire dans le numéro de décembre-janvier. D'abord, comment est venu, j'ai envie de te demander ça, Nicolas, comment est venue l'idée de cet article et comment Richard, le journaliste qui a écrit l'article, a-t-il fait la connaissance d'Hélène?
Écoute, moi je me le demande encore. Donc, il se trouve que, voilà, comment ça fonctionne un journal, on a des correspondants, des journalistes qui nous proposent des sujets. Et il se trouve que Richard Kinberger, c'est un reporter allemand et qui est passionné de camions, mais qui fait beaucoup, beaucoup de reportages à travers le monde. C'est un globe-trotteur, quoi. Mmh. Et puis, bon, et là, il a trouvé cette histoire pas très, très loin de chez lui et il nous l'a proposée parce que... Je pense qu'il l'avait déjà diffusé dans un magazine autrichien. Voilà. Mmh. Et puis,
parle bien près du micro, Nicolas.
Du coup, il m'a envoyé des photos. Alors, on a les photos du camion et puis on avait les photos de Hélène. Donc, et je trouvais ça assez rigolo. Il m'a envoyé le texte en allemand, bien sûr. Oui. Donc, j'ai rien compris. Je parle pas allemand. Mais grâce à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, maintenant
la traduction.
Même un texte en japonais ou en chinois, tu pourrais le lire en 10 minutes, tu as la traduction.
Entrons un petit peu dans le détail de l'histoire d'Hélène, parce que je me souviens d'avoir eu déjà une histoire similaire à celle d'Hélène en France, elle a dû prendre le relais de son mari.
Oui, voilà.
Que s'est-il passé? Parce qu'en plus, elle a dû prendre le relais de son mari dans une période qui n'était pas si simple pour les femmes à l'époque dans le métier.
Voilà, donc en fait, dans cette histoire, ce qu'il y avait de bien, c'est déjà les très très belles photos de Richard Kinberger, parce que c'est un excellent photographe. Et il a mis en scène ce camion Saurer de 1953, qui est un très beau camion, un porteur... plateau en fait, et il a une gueule quoi déjà. Alors Saurer, c'est une marque suisse, qui faisait des autocars. Et en fait, lui, il a connu l'existence de ce camion parce que c'est son copain qui est collectionneur, Holger Hahn, et donc qui lui en a parlé en fait. Et l'histoire est partie donc du véhicule. Holger Hahn, il avait déjà un autocar dans sa collection de véhicules anciens. Et un autocar Saurer, et il voulait ajouter un camion donc de cette marque suisse. Il a acquis ce véhicule-là, et de fil en aiguille, il est remonté, parce qu'il a voulu connaître l'historique de ce véhicule, et il est remonté à cette entreprise, donc Wulfschläger, et qui est donc l'entreprise
d'Hélène,
l'ancienne entreprise d'Hélène. Donc il faut savoir qu'il l'a retrouvé, donc, à la fois l'entreprise et Hélène. Hélène a 101 ans maintenant, donc voilà, elle est centenaire. Et il se trouve que dans les années 50, elle tenait l'entreprise de transport donc avec son mari. Et son mari a eu un cancer, il est décédé à 47 ans. Et donc là, c'est posé pour Hélène le choix, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je fais autre chose? Ou alors je reprends les rênes de l'entreprise, et elle a repris les rênes. Et non seulement elle a repris les rênes, mais elle s'est mise à conduire les camions.
Elle passait son permis. Et, et on apprend différentes choses dans le portrait d'Hélène. Elle a eu d'abord son permis camion avant d'avoir l'autorisation de pouvoir conduire des voitures.
Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est assez incroyable quand même. C'est dingue.
Et donc, à partir du camion, voilà, on remonte le fil de l'histoire et on tombe sur Hélène. Et il se trouve que Holger Hahn l'a rencontrée. Il y a des photos. Enfin, c'est émouvant, quoi.
Très belle histoire. L'un de ses premiers camions. Je vais pouvoir donner tous vos messages, témoignages dans quelques petits instants. Après l'information trafic, évidemment. Et ne me remerciez pas d'avoir la chanson d'Hélène Rollès dans la tête pour le reste de la soirée et de la nuit. C'était gratuit. Évidemment, le tout premier camion vous fait réagir dans les messages ce soir avec par exemple JP. Pour le sondage du soir, est-ce que j'aimerais revenir à mon premier véhicule ? Non. Après, si pas le choix, bien évidemment, on fera avec. Mais mon tout premier véhicule, alors moi, il date pas de 1860. C'était un Renaulté en petite cabine pour partir à la semaine. Et là, je suis sur un Scania S500. Donc, autant te dire que non. Alors, JP avait toutefois une petite question pour toi, Nicolas, qui nous a écrit tout à l'heure. J'ai une question à poser à Monsieur France Route. Alors, je ne sais pas si c'est national ou si c'est que dans mon coin, ravitaillé par les corbeaux, mais dans tous les marchands de journaux que j'ai fait autour de chez moi, le magazine de décembre est introuvable. Y aurait-il une raison à cela ? Est-ce que tu as une réponse à apporter à JP et peut-être d'autres auditeurs qui se posent la même question, peut-être ?
Oui, on en a parlé. D'ailleurs, la raison est disponible sur le site. On avait fait un communiqué et puis il a été repris. Vous le trouverez sur la page Facebook. Il est épinglé sur la page Facebook de France Route officielle. Bon, la raison, c'est qu'on a... le magazine France Route, la rédaction et puis les services, tous les services liés, administratifs, etc., la publicité, ont changé de crèmerie. C'est-à-dire que le groupe qui nous hébergeait et qui hébergeait d'autres titres de la presse spécialisée transport routier de marchandises, hein, je pense à l'officiel des transporteurs, etc., a fait faillite, en fait. Hein. Liquidation judiciaire pour le groupe ATC. Il y avait une trentaine de titres de presse. C'était un gros, gros groupe. Et puis, bon, il y a eu des problèmes de gestion. On en a beaucoup pâti parce qu'il y avait déjà eu des petits retards en début d'année, fin d'année 2023, début 2024, puisqu'on était placé en redressement judiciaire, donc visé par, par une administratrice qui regardait toutes les factures, etc. Donc, ça avait beaucoup alourdi l'organisation. Et puis ben là, il a été liquidé, l'affaire a été liquidée le 21 novembre et nous avons la chance d'être repris par une structure qui s'appelle Alaloupe Média avec l'officiel des transporteurs, avec Supply Chain Magazine et avec ASH qui est un magazine spécialisé.
Et donc tout se reprend au fur et à mesure, quoi, en fait.
Et alors donc, en fait, la grosse tâche des repreneurs, dans ces cas-là, c'est de tout récupérer, les données sur les abonnements, etc. Alors, il y a eu une transmission, mais elle a été un peu rapide, et puis complexe, houleuse même. Donc voilà, pour pas vous le cacher, c'est pas simple, quoi. Et donc, du coup... il y a des retards dans la livraison et dans les règlements des différents prestataires de la chaîne de distribution, imprimeurs, routeurs, distributeurs. Et voilà, là,
mais
c'est en passe de se résoudre.
Au bout du tunnel.
Voilà. C'est en passe de se résoudre. Alors, je ne vais pas donner de faux espoirs parce qu'on a, on a des mails tous les jours, on a des lecteurs qui sont attristés. C'est là aussi qu'on voit d'ailleurs l'importance du journal. Encore du journal papier, c'est avec tous les mails qu'on reçoit de gens qui attendent leur magazine et qui l'attendent depuis le début. C'est-à-dire qu'on aurait dû l'envoyer au pire début décembre et ne le voyant pas, ils sont impatients. Bon, bah, ça nous. Quelque part, on va le prendre comme un élément positif, on va le tourner en positif et on va se dire, voilà, ça nous oblige aussi. C'est-à-dire que pour la suite, ça nous oblige. Maintenant, il ne faut pas. Je vais juste finir. Voilà, la presse magazine, la presse papier, c'est quelque chose qui est très difficile. On sait tous que l'inflation est énorme sur beaucoup de produits. Sur le papier, elle a été considérable, mais aussi les frais postaux ont été considérables. ont considérablement augmenté, et donc c'est très difficile. France Route a augmenté à 5,90 €, mais ça reste un prix très très contraint. Par rapport aux augmentations qu'il y a eu sur les différents postes de dépenses, c'est pas beaucoup. Donc,
et par
on va
à d'autres
revoir
magazines on... mensuels, ça reste un prix tout à fait raisonnable.
Voilà, correct. Et on va sans doute revoir la parution, la périodicité, il faut, on peut le dire, pour dès 2025. Et l'articulation avec le numérique, parce qu'aussi, il y a de plus en plus de choses qui se font sur le numérique. Et on doit pousser l'accélérateur là-dessus, quoi.
Mais moi, je revois pas la périodicité de Nicolas à l'émission. Hein. Ça sera toujours deux fois par mois. Il est obligé de venir. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Voilà, c'est obligatoire.
Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on évolue, on va changer de ligne éditoriale. Hein. Donc, on aura toujours la même qui est de parler de la passion du camion, de donner de faire des portraits comme celui de Hélène et de faire des sujets spécialistes sur des transports de marchandises spécifiques, de faire des reportages sur un convoi exceptionnel comme il y en aura un dans le prochain magazine. Enfin, voilà, les show trucks, évidemment, les camions décorés, ça reste notre ADN. Les essais de Fabien, ça reste notre ADN. Donc, on continuera à faire ça. Ça c'est pas remis en cause. Mais il faut trouver une formule qui soit aussi adaptée
à l'ère du temps.
Ouais, à l'ère du temps, puis aux contraintes économiques, parce que si on veut rester en vie, c'est qu'il faut qu'on ait une logique économique, quoi. On n'est pas un magazine d'intérêt général subventionné par le public ou de l'argent public ou des choses comme ça. Voilà, donc on a besoin de. On a besoin d'avoir une rentabilité économique.
Et voilà, comme ça, ça aura répondu certainement aux questions de nos auditeurs que d'autres, comme JP, ont pu se poser. Et suite au mail que vous avez reçu, voilà, donc très vite, vous allez retrouver France Route dans les kiosques. Juste avant que je donne 2-3 messages avant l'info trafic, une info trafic très importante, fin de la coupure de la Nationale 10, après Barbezieux-Saint-Hilaire, en direction d'Angoulême, hein, nous l'avons appris tout à l'heure. Donc fin de cette coupure de la Nationale 10 en direction d'Angoulême depuis Bordeaux. Bénin Routeau nous avait également écrit: salut à toute l'équipe, je vous souhaite une bonne année. Moi, je me souviens de mon tout premier bus en véhicule lourd qui a été un F1. Mon tout premier camion, c'était un Renault Truck de 450 chevaux. Et puis, Petit Filou qui nous a écrit également: les meilleurs vœux Seb et pour toute ton équipe, j'écoute souvent tes émissions. Super, signé Thierry alias Petit Filou. Bah, merci, c'est adorable pour le message. Merci beaucoup. On aura une mise au point de Pollux par rapport à hier. Ça m'a beaucoup fait sourire. Une petite mise au point très, très souriante à venir dans un instant. Les messages d'Arnaud, de Guillaume, de Malo, d'Olivier 35, de Betty, Sylvain, Richard, Julien. Non, j'ai pas bugué. Il y avait bien deux Sylvains qui m'ont écrit. Et d'autres messages encore, radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue pour me dire quel a été le tout premier camion que vous avez conduit. Est-ce que d'ailleurs vous aimeriez bien le reconduire à nouveau? C'est aussi notre sondage du soir, et d'ailleurs le résultat, ça sera dans quelques minutes également après l'info trafic. Et déjà le dernier quart d'heure de cette première 2025 avec Nicolas Grumel et la rédaction du magazine. Tigibus nous a écrit: coucou la famille du 177, je vous fais juste un petit coucou rapide. Moi, le premier camion que j'ai conduit, c'était un Renault Magnum, et mon deuxième, un Iveco Cursor en BNTP justement. Bisous à vous et bonne année, et surtout bonne chance. 88, signé Tigibus, et c'était en boîte manuelle, nous précise-t-elle. Sylvain dit Yola Dream Team nous dit: mon premier truck, c'était au club militaire armé, le Marmont 4x4. Marmont, là, il m'a perdu. Moi, Marmont, tu connais ça, toi, Nicolas?
Non, je suis perdu, moi aussi.
Je connais les marmitons parce que j'aime bien faire à manger, mais le Marmont, je ne connais pas. Par contre, il nous a envoyé la photo. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette photo. Autre message qui nous est parvenu, Arnaud, qui nous avait écrit sur le deuxième sujet, effectivement. Sinon, pour répondre à ton deuxième sujet, je me souviens très, très bien du premier camion que j'ai conduit tout seul sur la route. C'était en février 2013, lors d'un stage professionnel que j'effectuais chez un de mes oncles, et il nous dit: bien que techniquement c'est pas mon oncle, mais un ex-beau-frère à mon père. On va poser l'arbre généalogique là, parce que moi ça y est, on m'a perdu là.
On peut la refaire si vous voulez. j'essaie de retrouver le truc.
Voilà, c'est pas mon oncle, mais un ex-beau-frère à mon père. Alors en fait, si on regarde bien l'arbre généalogique, c'est le cousin de la tante du jardinier, de la sœur de la grand-mère de l'oncle de mon frère. Voilà, tu l'as là, Quentin, c'est bon?
Ouais. Alors, je vous avoue, est-ce que je peux me permettre de revenir au trafic quelques instants sur l'accident que
oui,
j'ai?
Oui, bien sûr.
J'ai des piétons sur les voies de circulation dans la bretelle de bifurcation, dans le secteur de Narbonne, qui font des grands signes avec des feux lumineux. Vraiment, je vous invite vraiment à arriver avec toutes les précautions nécessaires pour éviter le suraccident dans ce secteur. Donc, je vous rappelle, un accident sur l'autoroute A9. Pour prendre la direction de Toulouse dans la bifurcation avec l'autoroute A61, des piétons sur les voies de circulation au niveau d'un accident.
Merci Quentin. Donc on est toujours à la recherche du jardinier, de la sœur, de la grand-mère, de la tata, qui était en fait... Bon alors sinon il nous dit, ce camion devrait parler à quelques personnes puisqu'il s'agit du Scania P270 d'Alain Marc, et pour mon premier tracteur routier, c'était en juillet 2013, c'était un DAF XF95 en boîte manuelle. La bonne route et la prudence à tous, hashtag respectons les routiers, hashtag corridor de sécurité. En tout cas merci Arnaud pour le message. Guillaume nous a écrit également ce soir, bonsoir Marielle, Quentin et Nicolas, je vous écoute de la maison et je suis bien content de ne pas être sur la Nationale 10, tu m'étonnes, parce que ça a été très très compliqué une bonne partie de la soirée. Il nous dit, pour le sondage du soir, non pour rien au monde, je ne voudrais reconduire mon premier camion, un tracteur Midlum 270 chevaux, cabine sans couchette, pas de Webasto. Alors Webasto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque, c'est un chauffage, c'est un moyen de chauffage.
C'est la climatisation.
Oui, mais qui chauffe aussi.
Oui, qui chauffe aussi.
Elle chauffe.
Réversible.
Voilà, c'est ça. Mais ça chauffe. Voilà, hein, voilà. Comme la jardinière de...
Parce que là, en ce moment, il a besoin du chauffage.
Oui, c'est ça, voilà. Je t'envoie des photos de ce dernier. Bonne soirée, bonne route à tous et la prudence. Merci pour les photos qui vont bien. Eh bien, tiens, en parlant du sondage, c'est quoi, qu'est-ce donc le résultat?
Les routiers sont toujours aussi sympas. Sondage.
Aimeriez-vous conduire à nouveau votre tout premier camion? Et vous êtes à 52% à nous dire que oui, vous aimeriez bien reconduire votre tout premier camion. Bah oui, il y a quand même un petit côté nostalgique, j'imagine. Sinon, il y a Olivier qui nous a écrit également. Monsieur Olive 35, salut Sebamax, je souhaite une bonne et heureuse année à Nicolas et Fabien. Pour ma part, mon premier camion, il y a 30 ans, était un Volvo FL4 et j'ai aussi conduit les porteurs rallongés. Je faisais une navette de nuit, Rennes-Tour et Tour-Rennes, avec la société DPD et les autres aussi. Bonne route à tous, soyez prudents. Livre 35-212 à tous, bonne émission. À vous, la bise. Avec le FL4, je faisais la messagerie dans Intramuros à Saint-Malo. Il nous dit, ah ouais, l'ami tonton, moi aussi, j'ai conduit un Marmont à l'armée en 92. Alors non, c'était Sylvain de Yola Dream Team qui nous avait écrit. Tonton, en revanche, m'a envoyé une photo pour me dire je quitterai mon île quand il y aura une heure de plus. Voilà, parce qu'en fait, il nous a envoyé une photo avec une île déserte. Voilà. Donc, il quittera son île quand il y aura une heure de plus. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. Marielle, Quentin, est-ce que vous vous souvenez de votre toute première voiture, Marielle?
Absolument.
C'était quoi? Oui.
Une 104 bleu métallisé.
Oh, carrément bleu métalisé,
enfin,
jusqu'à
bleu clair. Ah ben oui, je me souviens. Ben oui, ça marque une première voiture.
Ah ben oui, 104. Oui, voilà. Quentin, vous, c'était
Nicolas
une locomotive.
Se souvient plus que c'est une 104.
Ah si, je me souviens parce que j'en ai conduit une aussi. Mais elle était blanche.
Elle était blanche.
Ah, ben voilà. C'était 4 portes, moi.
Moi aussi, je crois.
Ah ouais.
On va tout savoir. Bon, Quentin, c'était une locomotive, je suis sûr, sa première voiture.
Alors,
sûr.
Potentiellement, il y a, pour les fins connaisseurs, un X73500 qui traîne quelque part, effectivement.
Voilà,
non, sinon pour la voiture, c'était une petite Seat Arosa, celle de ma maman. Ouais. Une petite voiture d'amour qui était mignonne, réactive et qui avait le siège passager qui grinçait. Et je prenais un malin plaisir à prendre des virages un peu sportivement.
J'ai pas envie de savoir.
Non mais pour les copains qui étaient comment dire assis, ça grinçait assez facilement, donc il suffisait juste d'avoir la bonne vitesse en sécurité, évidemment, je vous entends venir, mais c'était elle me manque.
Et vous, Nicolas, c'était quoi votre première auto?
Moi, oh là là, j'ai eu une 2 chevaux quelque temps qui est tombée en panne sur une bretelle du périphérique. Donc je l'ai gardé 2 mois, en gros c'est un copain qui m'avait filé, et puis voilà, elle a terminé. Et ça, c'est un mauvais moment parce que attendre le dépanneur et puis savoir que tu sauras pas quoi en foutre de la 2 chevaux, de toute façon elle est foutue.
Et donc
elle était vraiment pourrie.
Mais bon, c'était une Dodge.
C'était quand même une Dodge avec les odeurs, avec la vitesse qui craquait au tableau de bord, avec les courants d'air de partout, la clim Webasto, c'était tout le temps sur climatisation, c'est l'été ça. Comme l'hiver.
Moi, c'était une Daimler à vapeur. Voilà, c'était...
Mais vive la vapeur.
Moi, c'était une Daimler à vapeur. Non, mais c'était une Citroën C3, ma toute première voiture, voilà. Voilà. Parce que j'ai eu mon permis plus tard que les autres, il faut quand même l'avouer.
Oui, parce qu'une C3, c'est récent.
Ben
quand
oui,
même.
C'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire.
Elle était de 2004, quand même. Elle était de 2004.
En te regardant, on pourrait croire que ta première voiture, c'était une 504 ou un truc des années 70.
Oui,
je sais
que je suis né en 1812, mais j'ai eu mon permis un peu plus tard que les autres. Voilà. Richard nous a écrit, nous a très bonsoir Sebamax et à tes chers copilotes et à Nicolas. Je t'envoie la photo de mon tout premier camion que j'ai conduit, un bon vieux Scania à boîte manuelle, et je t'envoie ce que je conduisais quand j'étais à l'armée, voilà, en souhaitant à tout le monde une bonne soirée et les bons chiffres. Hashtag respectons les routiers, hashtag respectons les personnels de l'autoroute, hashtag respectons le corridor de sécurité, hashtag Manitou, je t'envoie Manitou. Et il nous dit merci beaucoup pour la musique d'Hélène, je l'ai en tête maintenant. Ça me fait plaisir. Julien nous a écrit depuis l'Amérique du Nord, il nous dit oui, j'aimerais bien conduire mon premier camion qui était un Renault 420 DCI en faisant de l'aliment, du bétail en semi. La raison première de vouloir reconduire ce camion pour la boîte de vitesse manuelle, c'était une 16 vitesses ZF, dit boîte à claque. J'appréciais le confort de ce camion, le dégivrage des rétroviseurs qui était très efficace, l'accès de la cabine en forme d'escalier qui était facile à faire du local en aliment, et l'adhérence dans les cours boueuses de ferme. Je me plaignais du manque de puissance, mais de beaux moments malgré des situations difficiles. Il est à Georgetown, dans le Kentucky, avec 0 degré et les pieds dans la neige. Marielle.
Eh oui, c'est bien. Tant mieux. Nous, il faisait soleil aujourd'hui.
Malo qui avait un petit hommage à faire. Bonsoir le monde, bon anniversaire à tous. 10 ans plus tard, on est toujours debout. Hashtag je suis Charlie, nous dit Malo, pour la commémoration, évidemment. Alors, il y a la petite mise au point de Pollux, mais vu l'heure qu'il est, je vais garder la mise au point de Pollux pour demain. Voilà.
Parce que, et demain, vous la garderez pour...
Non, demain, j'ouvre avec. Demain, j'ouvre avec. Voilà. Demain, j'ouvre avec, parce que c'est intéressant. Je vous referai la petite histoire demain soir, évidemment. Tiens, du coup, ça fait un peu de suspense. Pour savoir.
Fais du teasing, là.
Je fais du
un
teasing.
Vrai feuilleton.
Voilà. Oh là là. Pollux et Pollux et Scorpion, épisode 3, c'est à suivre demain. Voilà.
Oh là là là.
Vous avez vu le teasing de malade?
La plus belle la vie est en PLS.
C'est ça, exactement. Merci, voilà, pour vos derniers messages. Merci à toutes et tous pour votre participation. Un grand merci, Nicolas. Nous nous retrouvons dans 2 semaines.
Merci à toi, Sébastien. Et puis merci à Radio Vinci Autoroute. Pour cette émission qui est vraiment super et qui mériterait largement 1 ou 2 heures de plus.
Pas vrai.
Le sujet sur la table.
Nicolas, on va parler après l'émission. T'as intérêt à vite partir. Merci Marielle et Quentin. Très belle soirée à tous les deux.
Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. À bientôt. À demain d'ailleurs.
À demain, voilà. Demain, une idée d'émission que vous avez toutes et tous validée. Oups, la boulette. Les situations cocasses que vous avez vécues. La petite bourde inattendue. entendu. J'attendrai tous vos témoignages et puis nous vous parlerons des nôtres au 107.7, même si vous vivez les miennes en direct chaque soir. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit, et la prudence ou la bonne nuit. À demain 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73 51 88 soit 212 hashtag respectons les routiers. Vous écoutez le 107.7, il est 23h02.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h 23h sur Radio Vinci Autoroute.